bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Il est 19h ici à Paris.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Dans 10 minutes, ce sera Dimanche Politique sur Radio France Internationale. Avec vous, Mathieu Gallard.
Bonjour.
De l'Ipsos. Mais avant cela, le journal. La guerre commerciale déclarée par Donald Trump au Canada, au Mexique et à la Chine, on en parle dans un instant. Des milliers de manifestants à Berlin contre l'extrême droite. Et entre autres résultats en sport, en cyclo-cross, Van der Poel sacré pour la 7e fois champion du monde. Israël a mené une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée, marquée par la destruction de nombreux bâtiments. À cette occasion, l'armée affirme avoir tué plus de 50 terroristes, comme elle les appelle, cela depuis le 14 janvier. Le président par intérim syrien en Arabie Saoudite pour sa première visite à l'étranger. Ahmad al-Sharia a rencontré Mohamed Ben Salman. La teneur de leurs échanges n'est pas connue, pour l'instant. La guerre commerciale est lancée. Donald Trump a imposé 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique, 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois. Ces trois pays visés promettent maintenant une riposte et cette guerre commerciale entre trois économies très intégrées, Nathalie Vitran, pourrait nuire aux industries, y compris américaines.
Justin Trudeau a prévenu, avant d'annoncer des mesures de représailles, le Premier ministre canadien s'est adressé directement à ses voisins.
This is a choice that yes.
Oui, cette décision va nuire aux Canadiens, mais ces taxes sur nos produits auront aussi des conséquences bien réelles pour vous, les Américains. Elles vont menacer vos emplois, potentiellement provoquer la fermeture de chaînes d'assemblage automobile et d'autres usines aux États-Unis.
C'est aussi l'avis de Linda Hassenfratz, qui dirige une entreprise de fabrication de pièces détachées automobiles au Canada. Elle était interrogée sur Automotive News, un podcast spécialisé.
Vous savez, certains composants, certaines pièces détachées traversent les frontières 5, 6, 7 fois avant d'être intégrées au véhicule en bout de chaîne et de finir dans le garage du consommateur. Personne ne peut absorber une telle augmentation des prix. Si ces tarifs douaniers de 25% entrent vraiment en vigueur, je ne bonne pas plus d'une semaine avant que la production automobile en Amérique du Nord s'arrête.
En 2023, l'industrie automobile canadienne a exporté pour 51 milliards de dollars de véhicules et de pièces détachées à plus de 90% à destination des États-Unis.
Et en France, le ministre de l'Industrie dit que l'Europe doit assumer une forme de rapport de force face aux menaces de droits de douane de Donald Trump. Marc Ferracci appelle à être mordant face au président américain. Comment l'Europe, justement, peut-elle s'organiser pour lutter contre les dérives de l'intelligence artificielle? C'est la question débattue aujourd'hui par les dirigeants des pays membres de l'Union européenne, du Royaume-Uni et le secrétaire général de l'OTAN. Cela avait lieu à Bruxelles, Elena Loison.
Oui, à partir d'aujourd'hui, sont interdites certaines intelligences artificielles, notamment les systèmes de notation sociale qui existent par exemple en Chine, toutes les IA qui visent à évaluer la probabilité qu'une personne commette un crime, ou encore celles qui cherchent à identifier des personnes vulnérables. Il s'agit du premier volet de cette nouvelle loi dont l'application va se faire de manière graduelle sur 2 ans. En août, une nouvelle série de mesures visera cette fois les IA qui génèrent texte et images, comme ChatGPT. Ces logiciels devront répondre à des obligations de transparence sur les données utilisées pour entraîner leurs modèles et mener des audits sur leur sécurité. Les sanctions pourront atteindre jusqu'à 7% de leur chiffre d'affaires. Dans le futur, une mesure phare doit entrer en vigueur, l'interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel, notamment par les forces de l'ordre. Mais cette mesure pourra faire l'objet d'exceptions que chaque pays pourra choisir d'inscrire dans sa législation nationale. De quoi alerter les associations de défense des droits humains qui craignent que ces exceptions amoindrissent cette loi sur la régulation de l'intelligence artificielle. Elena Loison, Bruxelles, RFI.
Environ 160 000 personnes viennent de participer à Berlin à une manifestation contre l'extrême droite. Elle disait également non à un début de rapprochement politique cette semaine avec les conservateurs. Mobilisation qui intervient à 3 semaines d'élections législatives. En Nouvelle-Zélande, une montagne est une personne. Après des années de négociations, une loi lui accorde en effet le statut de personne morale. Une décision prise pour indemniser le peuple maori, la région de Taranaki, pour le sort qui lui a été infligé infligées pendant la colonisation et la confiscation de ses terres, Igor Strauss.
Ne l'appelez plus Mont d'Egmont, un nom donné par l'explorateur britannique James Cook au XVIIIe siècle, mais Taranaki Monga ou Mont Taranaki, un nouveau nom, des droits similaires à ceux d'une personne et la protection de ses sommets, voilà en partie ce que propose la loi adoptée par le Parlement néo-zélandais jeudi dernier. Elle reconnaît également la vision du monde maori selon laquelle les montagnes sont des êtres vivants. L'adoption de cette loi a également été accompagnée d'excuses du gouvernement pour la confiscation du mont Taranaki et de terres appartenant aux Maoris dans les années 1860. Nous devons reconnaître les blessures causées par des torts passés et aider les peuples autochtones à réaliser leurs propres aspirations, a déclaré Paul Goldsmith, le ministre responsable des négociations. L'accès à la montagne ne changera pas et tous les Néo-Zélandais pourront continuer à la parcourir. Le mont Taranaki n'est pas le premier élément naturel de Nouvelle-Zélande à obtenir ce statut moral. En 2014, la forêt indigène d'Urewera est devenue la première à l'obtenir, suivie de la rivière Wangani en 2017.
La politique en France avec le Premier ministre qui annonce qu'il engagera le 49-3 pour faire adopter le budget. Du coup, il expose son gouvernement à une motion de censure. Le coordinateur de LFI se dit en désaccord radical avec l'ancien Premier ministre Lionel Jospin après son appel à ne pas voter la censure du gouvernement Bayrou. Manuel Bompard déclare qu'un refus des socialistes de le faire équivaudrait pour lui à un changement d'alliance électorale. On en reparle dans quelques minutes. En sport, salut Diouf, le football à quelques minutes du choc des Olympiques.
Et Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. L'OM, deuxième au classement battu à Nice dimanche dernier, devra absolument faire un résultat à la maison face à des Lyonnais qui ont un nouvel entraîneur sur le banc, Paulo Fonseca, chargé de relancer une équipe à la peine. En septembre dernier, les Marseillais étaient allés renverser l'OL 3-2 au terme d'un scénario fou. À l'époque, Adrien Rabiot venait tout juste d'être recruté. Le milieu de terrain n'avait donc pas disputé ce match, mais il sait combien ce duel compte.
C'est un match qui est enthousiasmant, qui est plaisant à jouer, très important pour aussi notre position au classement. Eux qui sont aussi pas très loin, qui se battent pour accrocher le podium. Il faut qu'on se concentre sur nous, ce qu'on a bien fait dans les gros matchs. Réussir à poser notre jeu, à ressortir les ballons, à être assez agressif en jouant chez nous, en allant les chercher haut, les empêcher de jouer. Voilà, on sait qu'ils ont de très bons joueurs, ils sont capables de faire des différences, mais... Je pense qu'en leur mettant la pression, c'est une équipe quand même qui a du mal quand on vient les chercher assez haut dans leur camp. Après, c'est sûr que si on les laisse sortir, ils ont de la qualité pour aller au but. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur nous avec ces armes-là.
Marseille-Lyon, coup d'envoi 19h45, temps universel.
Il y a des matchs de Ligue 1 qui sont en train de s'achever.
3 pour être précis, il n'y a pas une avalanche de buts cet après-midi sur ces rencontres. Le Stade Rennais d'Habib Bey mène 1-0 face à Strasbourg. Le Havre, bon dernier, mène 1-0 face à Angers. Nantes mène à l'extérieur sur la pelouse de Reims 2-1. Et un peu plus tôt dans la journée, Toulouse a fait match nul à domicile contre Nice, 1-partout.
Du football également au Royaume-Uni.
Oui, et les semaines se suivent et se ressemblent pour Manchester City. Les Citizens sont en train de sombrer sur la pelouse d'Arsenal en ce moment même. Les Gunners mènent sur le score de 3-1. City est actuellement 4e à 5 points du 3e Nottingham Forest.
Voilà pour le football. En handball, une médaille pour les Bleus.
Et l'équipe de France masculine sauve son honneur au Mondial 2025 en remportant à Oslo la médaille de bronze à l'arraché aux dépens du Portugal. Les Bleus l'emportent 35-34 et évitent la prolongation grâce à une parade décisive à 6 secondes du buzzer du gardien Charles Bollinger. Après la déception de la demi-finale perdue contre la Croatie et l'échec des JO de Paris, c'est un parcours bien récompensé, estime le sélectionneur Guillaume Gilles.
On finit ce parcours avec le sentiment d'avoir clôturé de manière très positive cette aventure. Bien sûr qu'il y a cet accroc de demi-finale, mais au final, quand je regarde d'un peu plus loin et que j'essaye de prendre un peu de recul alors qu'on est encore dans la passion du match, je me dis que ce qui a été produit depuis quelques mois, depuis le démarrage de ce nouveau cycle, est de qualité, avec un état d'esprit des gars qui était vraiment, vraiment excellent, et un jeu qui a aussi été intéressant. Alors bien évidemment qu'on peut toujours trouver à redire, mais je suis très satisfait de ce qu'on a produit et de ce qu'on a vécu ensemble.
Et la finale se joue en ce moment même, sachez-le, et c'est les Danois qui mènent face aux Croates.
Le basket aux États-Unis et la NBA qui vit un véritable séisme.
Une annonce cataclysmique totalement inattendue. Luka Doncic, la star des Dallas Mavericks, va rejoindre les Lakers de Los Angeles. Tout cela dans le cadre d'un échange avec le pivot All-Star Anthony Davis. Une transaction qui s'est conclue en toute discrétion, qui a même surpris les stars de la franchise comme Joel Embiid ou encore Kevin Durant. Des vedettes qui ont vivement réagi sur les réseaux sociaux. Il sera donc très intéressant de suivre la saison régulière lors des prochaines rencontres.
Voilà pour les sports. Ainsi va le monde. Il est 22h10 sur l'île Maurice où vous écoutez RFI sur 93.2 en FM.